Bonjour Benoît Magimel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un écrivain, un pays et un défaut, vous seriez qui? Vous seriez quoi? Alors d'abord, l'écrivain, vous seriez qui?
Je serais Khalil Gibran.
Pourquoi?
Parce qu'il a écrit un livre.
Le prophète.
Le prophète. Et j'ai lu ça quand j'étais très très jeune. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de réponses dedans qui me plaisaient. Après, j'ai appris qu'en fait, il respectait pas du tout ses préceptes. Oui, c'est ça.
Mais je le garde quand même. Vous le gardez quand même. Ouais. Si vous étiez un pays.
Je serais un continent, je serais le continent africain.
Pourquoi?
Parce que je crois que c'est une terre d'avenir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent et il y a une. Je sais pas, c'est une émulation incroyable, quoi. C'est très créatif, c'est pas ça, ça. Bon, il y a énormément de misère, évidemment, mais il y a quelque chose, il y a une survie, il y a une force de vie incroyable.
Si vous étiez un défaut, vous en avez des défauts?
Oui, têtu.
Têtu?
Oui, enfin, j'ai du mal à plier le genou, je crois.
Il faut toujours que vous ayez raison, quoi.
Et en même temps, j'accepte quand c'est. Enfin, je pense à mon métier, en fait. Je suis plutôt assez conciliant, mais dans la vie privée, ouais, j'ai du mal à plier.
Vous avez du mal à plier. Je vais vous citer une phrase d'André Gide. Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons. Vous êtes d'accord avec lui?
Bien sûr. D'ailleurs, le film Rosalie, c'est de ça que ça parle. Hein. Les différences nous font peur. Elles font peur à la société. Dès qu'on a quelque chose de... En fait, une forme de liberté. Voilà, je pense que la liberté, c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui.
La liberté, ça fait peur.
Ouais.
Et cette femme, elle est libre. Rosalie, c'est le film que vous venez nous présenter ce matin. Le nouveau film de Stéphanie Di Giusto, qui sort mercredi prochain. Les monstres dont parle Gide, ou les freaks, on disait en anglais. Il en est question dans ce film-là. C'est un film passionnel, un film sensuel, violent même. L'histoire d'une femme, à barbe, qui a existé au 19e siècle, incarnée par Nadia Tereskiewicz. Elle est atteinte d'un dérèglement hormonal, donc qui entraîne une pilosité excessive, ce qu'on appelle l'hirsutisme. Elle a vraiment existé, cette femme. Elle s'appelait Clémentine Delay, femme à barbe célèbre en Lorraine à la fin du 19e. Et elle se bat pour assumer sa différence, pour exister, pour vivre malgré tout normalement. Cette femme singulière, émancipée, forte, libre, comme vous dites, mais qui souffre aussi énormément, c'est elle qui vous a touché en lisant le scénario. C'est ça qui vous a touché?
Bien sûr, c'est cette force de vie qu'elle a en elle, ce côté solaire aussi, c'est quelqu'un qui est plein d'amour en fait, qui va même réveiller le désir de cet homme. Et puis il y a surtout cette histoire d'amour en fait.
C'est ça, vous êtes un tenancier de bistrot, criblé de dettes, au bord de la faillite, qui décide d'épouser cette femme pour toucher la dot. C'est donc un mariage arrangé. Quand on la lui présente, elle a les joues lisses.
Oui, bien sûr. Et elle est même trop belle pour être...
Vrai.
Vrai, oui, parce que...
Pour lui, en tout cas.
Lui, il se voit comme un monstre. Il revient de la guerre. C'est un homme abîmé, détruit. Et puis, il voit cette jeune femme arriver. Il a beaucoup d'égards pour elle. Et puis, il va découvrir... c'est ça, l'hirsutisme, en fait. Mais il va vivre ça. Surtout, je pense que c'est moins ce problème-là. C'est plutôt le mensonge et la trahison, en fait.
Voilà.
Qui va le blesser.
La nuit de noces, cette femme ravissante... puisqu'elle se rasait tous les matins, il ouvre sa chemise et là il découvre que sur son torse, eh bien, il y a des poils. Et là, il y a une scène d'une violence incroyable, c'est-à-dire qu'il la rejette violemment. Il lui dit « tu m'as menti, tu m'as trahi, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, t'es pas une vraie femme ». Il y a une vraie violence dans cette scène de rejet, il veut plus la regarder, il veut plus la toucher, quoi.
Non, et c'est cette résistance en fait tout au long du film qui m'a marqué, parce que les histoires d'amour, il y a toujours un peu un moment classique qui arrive à la moitié du film. Là, il y a une telle résistance chez lui, à chaque fois il se retrouve face à ça, il la rejette, il n'y arrive pas. Jusqu'au moment où, en fait, les actes d'amour qu'elle va poser pour lui vont lui permettre de l'aimer au-delà de ses apparences, quoi, tout simplement.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est très très fort dans le film, c'est comment le désir progressif, le désir qui résiste, finit par le brûler à cet homme. Et c'est en ça que c'est un film, je pense, sur la sensualité, sur la liberté aussi, sur la différence, mais sur la sensualité. Et comment on peut être à la fois dégoûté par une personne et attiré, excité par cette personne. Et c'est cette chose-là très ténue que vous jouez qui rend le film intéressant et différent.
Comment ben c'est trouver le chemin, ce que je disais à la réalisatrice, trouver le chemin vers cette femme, en fait, qui elle est vraiment, réellement, quoi. Finalement, elle est tellement... Je veux dire, tout ce qui peut lui faire endurer glisse sur elle totalement, quoi. Elle est tellement lumineuse à chaque fois, elle réveille son désir
Elle va le chercher, elle va le toucher, elle va lui dire, regarde, je suis pas un monstre.
Ouais, c'est elle qui provoque. Et sans cette insistance, ça aurait été difficile, je crois, pour cet homme.
Les scènes sensuelles, c'est pas votre truc au cinéma, Benoît Magimel. On se rappelle que vous aviez failli refuser La Pianiste de Michael Haneke parce qu'il y avait une scène de masturbation qui finalement a été retirée dans le film, mais que il paraît même que là, lors de la première projection, vous étiez gêné, ce que dit la réalisatrice, en voyant les scènes d'intimité. Ça vous met toujours mal à l'aise, quoi.
Je suis sorti même quasiment de la salle, hein, parce que j'étais... Oui, c'est ça, je suis très, très gêné, parce que c'est trop proche en plus. Je crois que j'ai besoin de temps pour voir les films, pour me... Oui, prendre une distance pour pouvoir voir les choses de manière moins intime, moins personnelle. C'est pour jouer, on a besoin. Enfin, moi, j'ai besoin de tirer les rôles vers moi, de m'identifier complètement à eux, pour me poser toutes ces questions en fait, toutes les questions nécessaires pour moi, qui sont parfois des questions un peu pratiques même. C'est que comme ça que j'y arrive. Donc, quand je vois le film un an après, je suis trop imprégné de ça encore.
Ouais. Ça vous met trop mal à l'aise, en fait, de vous voir, surtout dans ces scènes d'intimité.
Ouais, ouais, là, ça m'a dérangé. Je mettais la main devant les yeux.
Ouais.
Et parfois, c'est des scènes juste d'émotion aussi qui vont me déranger. C'est trop tôt.
C'est trop tôt. Il faut un temps pour vous, pour pouvoir vous voir, vous. Tellement vous êtes. Mais c'est ce que dit Virginie Efira de vous. Elle dit, Benoît Magimel, il n'y a pas de différence entre la réalité et la fiction avec lui.
Je pense que, voilà, on rentre pas dans la peau d'un personnage, c'est lui qui rentre dans la vôtre. Et c'est comme ça que je trouve ma sincérité, en fait. Je pense qu'il faut être sincère, c'est tout.
Benoît Magimel, quelle décennie vous venez de passer, quand même. Vous êtes devenu l'un des acteurs les plus bankable, comme on dit, du cinéma français, le meilleur acteur de sa génération, dit Vanity Fair. On dit que vous êtes le Marlon Brando français. Vous avez remporté 2 Césars 2 années consécutives, ce qui est rarissime. L'an dernier à Cannes, vous présentiez pas moins de 3 films en compétition. Quand vous regardez votre parcours, quand vous regardez vos 35 ans de carrière, depuis La vie est un long fleuve tranquille, où vous aviez 14 ans, il y a quoi qui se passe? C'est de la fierté, c'est...
Et si vous voulez, très jeune, je pense que dès 14-15 ans, j'attendais cette période, en fait, curieusement. Les gens me prenaient pour un fou, ils se disaient, la quarantaine pour un acteur, c'est l'âge des possibles. Tous les acteurs que j'ai pu admirer avaient au moins cet âge-là, et je voyais tous ces rôles. Je me disais, il faut avoir un vécu pour pouvoir endosser des personnages. Et on met ce vécu au service de ces rôles. On parle de ce qu'on connaît, on parle de soi finalement à travers des rôles. Et quand il y a des petites zones de résonance comme ça, ben j'y vais. Voilà.
Et puis, donc il fallait attendre d'avoir 40 ans, il fallait attendre de vivre ce que vous avez vécu entre 14 et le début de la quarantaine, les hauts, les bas, les moments difficiles,
exactement.
Pour pouvoir devenir l'acteur que vous êtes devenu aujourd'hui, qui est plébiscité. Vous pensez qu'il y a eu, il fallait ce chemin-là?
Je pense, ouais, je pense. Je pense qu'on ne peut pas jouer Hamlet à 20 ans, quoi. On joue Alfred de Musset. Oui. On parle de ce qu'on ressent, on parle des choses qui font écho. Si c'est trop tôt, on peut pas comprendre tout. Moi, j'ai vu des films trop jeunes, je les ai revus plus tard, et puis tout d'un coup, ça m'a parlé parce que j'avais vécu des choses.
Aujourd'hui, vous êtes prêt à jouer à Hamlet?
Je sais pas encore.
Pas encore, il faut encore vivre un peu. Il faut encore une décennie encore avant de...
Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup.
Vous avez envie? Ou ça vous fait
Oui, j'aimerais bien, mais quelque chose de plus moderne, je pense.
Quelque chose de plus moderne que Shakespeare. Vous dites que le plus dur dans notre métier, c'est de durer. Quel est le secret pour durer? Comment on ne lasse pas, au fond, les gens, le public, les réalisateurs qui ont moins de désir pour vous?
J'ai toujours pensé qu'il fallait prendre un peu son temps et ne pas s'emballer sur des propositions peut-être parfois trop grosses, trop importantes. D'avoir d'abord des fondations pour pouvoir encaisser un échec, par exemple. J'ai vu des acteurs qui avaient joué dans des super productions pour un premier film qui s'est ramassé et on les a plus vus derrière. Faire des choix, je crois que c'est le plus important.
Mais vous arrivez à dire non?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je sais que vous avez dit non à des très, très grands rôles.
Ouais.
C'est facile pour vous de dire non, même quand on vous dit c'est énorme, tu peux pas, c'est le rôle de ta vie?
C'est difficile quand vous avez envie de travailler avec un réalisateur. Quand c'est quelqu'un que vous avez envie de connaître, là c'est difficile de dire non. Ouais.
Et quand un film que vous aimez beaucoup ne marche pas, comment vous le vivez, vous?
Ah, très très mal, très mal. Et c'était aussi des moments où parfois on a envie de laisser tomber parce que les films auxquels on croit ne marchent pas, les ceux où on est un peu plus dubitatif fonctionnent, on ne sait jamais en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le cinéma va mal et à chaque fois, c'est un tel investissement que quand ça ne rencontre pas le public, on est vraiment malheureux parce que c'est que le public qu'on a envie de toucher.
Vous faites ce métier pour toucher le public. J'avais Alexandra Lamy la semaine dernière qui disait, mais moi je trouve pas que c'est un gros mot, le mot populaire. J'aime ça, je fais mon métier pour ça. Comme Lino Ventura disait, c'est pour le public. En fait, c'est pas pour les critiques ou pour le milieu, quoi.
Mais bien sûr, et c'est pour procurer des émotions aux gens. Moi, Chabrol m'a toujours dit, j'essaie de faire des films qui emmerdent pas le public. Il pense à lui en premier. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'entendais jamais ce mot-là. C'était quelque chose limite pas vulgaire, mais en tout cas, c'était jamais. Je disais, mais il y a des films qui sont tellement personnels. Quand vous faites des films personnels, c'est comme Albert Serra. Vous faites un film à 1 million d'euros, ce qui est
pacifiction,
tout.
Là, vous parlez pacifiction, du film.
Et ça lui donne toute la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Mais à ce moment-là, il y a moins d'enjeux financiers.
Votre plus grande fierté, c'est quoi? C'est votre César pour De son vivant, d'Emmanuel Berco.
Ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait des films avec elle, ouais, surtout, ouais, et de l'avoir rencontrée à un moment donné où c'était un moment important.
Quel film, quand même? Ce film De son vivant où vous jouez un malade du cancer.
Je voulais pas le faire, le film, parce que ça m'avait tellement ému. Et je m'étais dit, oh là là, on va faire plus d'un an là-dessus. Comment je vais m'en sortir? C'est annonciateur d'une mauvaise nouvelle.
Oui, vous aviez peur de mourir, d'avoir un cancer.
Je me suis dit, je vais tellement prendre ça pour moi personnellement que je vais en créer un, quoi.
Bah non, heureusement non. Mais quel film, c'est... Ouais. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je ne repense pas à ce film-là, à cet homme de 40 ans qui dit il faut ranger sa chambre avant de mourir.
Ouais, faut s'organiser avant de partir. Ouais, faut dire au revoir aux gens qu'on aime. Il y a tellement de choses auxquelles on pense pas. Donc, mais vous voyez, ce film, il m'a fallu. C'est un film qui s'est déroulé sur une année. Et cette année-là m'a permis de faire le chemin de ce personnage.
Et ça s'est terminé par le César. Il paraît que votre mère, qui était infirmière, vous disait souvent « On te reprochera toujours d'où tu viens, mon fils ».
Ouais, ouais.
C'est
ouais.
Vrai, on vous l'a reproché ?
Je sais pas, je me suis raconté parfois, mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas.
D'où tu viens ?
Disons que je pense que c'est dû à une anecdote qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit que quand elle allait chercher certains patients... Elle était extrêmement dévouée, c'était une infirmière. Voilà, ma mère m'a impressionné beaucoup dans la façon dont elle donnait tout à son travail. Elle me disait, j'arrive chez des gens, parfois on me demande d'enlever mes chaussures, et quand le médecin arrive, lui, il peut les garder. Et donc, voilà, c'est peut-être de ça qui m'est resté, en fait.
Sauf que vous, vous dites, je peux circuler dans tous les milieux, je sais très bien faire semblant.
Oui, oui, oui. Je voulais surtout pas être cantonné à quelque chose. Je voyais aussi que les acteurs qui ne faisaient que la même chose étaient un petit peu. Voilà, moi j'avais envie de jouer tout, mais attention, on peut pas tout jouer, on peut pas tout faire. Voilà, il y a des choses.
Il y a des rôles que.
Il faut simplement avoir une connexion avec.
À la fin, à bientôt 50 ans, c'est quoi le succès? C'est quoi la recette? C'est le travail? C'est la chance ou c'est le talent à votre avis?
C'est tout ça à la fois. Je pense que c'est tout ça à la fois.
Et le plus important, c'est quoi?
C'est les rencontres. C'est les rencontres et quand on dépend du désir des gens, c'est quelque chose de très difficile à... Vous savez pas comment ça fonctionne. Je crois que la seule fois où j'ai désiré fortement faire un rôle, je l'ai pas eu.
C'était quoi?
C'était un film, c'était même un téléfilm, je me souviens. C'était un rôle un peu étrange. Et je suis arrivé, j'avais été nommé au César de le meilleur espoir pour un film de Téchiné. Et j'ai dit, oui, ce rôle, j'aimerais beaucoup le jouer. J'ai très envie, j'avais une vingtaine d'années. Et ils m'ont regardé, je pense, avec des gros yeux. Et ils m'ont jamais rappelé. Donc à partir
et
de là...
Et c'était un mal pour un bien, non, finalement,
oui,
vous ne savez pas pris.
Mais on apprend beaucoup de ce genre de choses, quoi. C'est surtout ça, vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure. Je pense qu'on apprend énormément des choses qu'on rate aussi. Et d'ailleurs, moi j'aime bien ce que disait Brel. Il disait, on raconte les choses qu'on rate, qu'on n'arrive pas à faire. Et finalement, les rôles que je joue... J'aimerais parfois avoir leur qualité, que je ne possède pas forcément. Voilà.
Et par exemple, sur ce rôle, sur ce film, Rosalie, qu'est-ce qu'il a comme qualité que vous n'avez pas et que vous aimeriez bien posséder, cet homme ?
Est-ce que j'aurais pu tomber amoureux au-delà des apparences ? Ouais. Est-ce que ça, dans une société comme la nôtre, est-ce que j'aurais eu cette force ? Oui, simplement. Je pense que les actes font tomber les masques, de toute façon.
50 ans ? Dans un mois, vous le vivez comment? Avec angoisse ou sérénité?
Je me demande s'il faut le fêter.
Ah ouais, donc plutôt avec angoisse.
C'est à la fois... c'est une bascule en fait, c'est ça surtout je crois, c'est une bascule.
Ouais.
Donc j'essaie de ne pas me poser les phrases que j'entendais chez les vieux.
Genre.
Qui se disaient, oui mais dans ma tête j'ai pas du tout 50 ans. Vous voyez, ce genre de phrases.
Et dans votre tête vous avez quel âge en vrai?
Je crois que je suis resté un gamin en fait. Je pense qu'il faut rester un gamin pour faire ce métier. Il faut l'art du déguisement, c'est tellement drôle, c'est tellement intéressant.
Et votre rapport à votre corps, comment il va? Parce que c'est vrai, vous en avez pas mal parlé. Vous avez pris 20 kilos pour je sais pas quel film, vous les avez perdus. Vous dites, je passe mon temps à faire un yo-yo. Quand je bouffe une salade, je prends un kilo. Ouais. Là, on est comment? On est bien plutôt, non?
Oui, ça s'arrange, ça va. Mais j'avais fait comme Chabrol m'avait dit, arrête le sport après 30 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et bon, maintenant je reprends. Obligé, vous voyez, là, 50 ans, c'est. Bon, on va pas se laisser aller. Parce qu'après, on sait que c'est trop tard.
Donc vous faites du sport?
Ouais.
Vous avez arrêté de fumer?
Non, pas encore.
Les impromptus, les questions de fin, vous répondez sans trop réfléchir. Est-ce que c'est vrai que vous cuisinez bien?
Je cuisine convenablement.
C'est Juliette Binoche qui dit ça.
Oui, c'est vrai, je cuisine. Je fais des bons petits plats. Mais
c'est quoi le meilleur plat?
C'est de l'improvisation. Ah, j'adore le pot-au-feu. Ouais, j'adore le pot-au-feu.
Sartre disait, il n'y a pas de bon père. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je l'ai appris à le découvrir, je l'ai découvert, ouais.
Il n'y a pas de bon père.
C'est un métier difficile. Moi, j'ai voulu, je crois, être tout sauf mon père, éviter les mêmes erreurs, mais j'en ai commis d'autres. Voilà. On en fait, quoi qu'il arrive. Et puis l'absence, on la remplace pas aussi, vous voyez.
La notoriété, c'est une chance ou c'est un poison?
Ça dépend. Quand elle est hystérique, ça peut l'être, ouais. Sinon, non, c'est pas dérangeant, spécifiquement.
Vous n'avez jamais pété les plombs, vous?
Non.
Delon ou Belmondo?
Delon, parce que c'est un fils de charcutier.
Al Pacino ou Robert De Niro?
Al Pacino, parce qu'il prend plus de risques, je crois. Il est plus exacerbé. Jouer la retenue, c'est plus simple.
Gabin ou Ventura?
Gabin. Pour toutes ses périodes et puis toute son histoire, parce que c'est un destin incroyable. Je dirais que l'homme est aussi fascinant que sa carrière.
Visconti ou Fellini?
Fellini.
NTM ou IAM?
NTM.
Marguerite Duras ou Françoise Sagan?
Marguerite Duras.
Aurel San ou Stromae?
Stromae.
La boxe ou le foot?
Ah, la boxe.
Anatomie d'une chute ou Oppenheimer?
Oppenheimer.
Qu'est-ce qui vous met en colère?
Les gens qui utilisent leur statut pour écraser les autres. Je les aime pas.
La dernière fois que vous avez pleuré, Benoît Magimel?
C'était en revoyant Omar Lafraise.
Ouais.
Quand je meurs.
Sexe, alcool, drogue, bouffe, quels sont vos vices?
J'ai eu tout ça à la fois, je pense, sauf alcool.
Sexe?
Ouais.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Liberté.
Et Dieu dans tout ça?
Je m'efforce en ce moment de me tourner vers lui.
C'est vrai?
Ouais.
Et c'est dur ou c'est...
C'est un travail au quotidien, je crois. La spiritualité, c'est quelque chose, je pense que c'est un chemin, en fait. Une force, en tout cas. Je pense qu'il y a une force supérieure. Mais je suis encore loin de tout ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le film s'appelle Rosalie, de Stéphanie Di Giusto. Ça sort mercredi prochain au cinéma avec Nadia Tereskiewicz. Et merci, Benoît Magimel.
Merci, Léa. Merci.
Belle journée.